France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et l'on commence par ce conseil de sécurité et de défense prévu à partir de 10h ce matin à l'Élysée. Il sera consacré à la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. L'exécutif finalise en fait les protocoles à appliquer pour la rentrée des classes et pour celle des entreprises. Tout cela alors que le Covid-19 se propage un peu plus dans le pays et que nous avons pour la première fois les chiffres des décès à domicile. Plus de 1800 entre les mois de mars et de mai. Explications et analyses dans le journal de 6h30. Dans une demi-heure également sur France Culture, nous nous pencherons sur la filière des masques textiles en France. Le pays peut en produire désormais 20 à 25 millions par semaine. Pendant ce temps, l'Île-de-France et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont placées sur la liste rouge de l'Allemagne. Des zones à risque, dit Berlin, à cause du nombre élevé de contaminations. Les voyageurs qui reviennent de ces zones devront se soumettre en Allemagne à un test de dépistage et s'isoler dans l'attente du résultat. La colère contre les violences policières ravivée aux États-Unis. Des milliers de personnes ont manifesté hier à Kenosha dans le Wisconsin, la ville où Jacob Blake, un homme noir de 29 ans, a reçu 7 balles dans le dos à bout portant. Son état reste critique. Les Occidentaux montent au créneau face aux agissements du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Ils ont rencontré hier une opposante au régime réfugiée en Lituanie. Notre envoyé spécial sur place nous racontera ça à 6h30. Et puis sachez que nous irons en Tunisie où le Premier ministre a présenté cette nuit son nouveau gouvernement. Il devra ensuite obtenir la confiance du Parlement et c'est là toute la difficulté, vous le comprendrez. Je termine enfin en vous précisant ces feux de végétation dans le sud de la France. 500 hectares ont déjà brûlé au niveau de la commune d'Istres dans les Bouches-du-Rhône. Un incendie important qui mobilise 1300 pompiers de plusieurs départements. Hier soir, le feu était en passe d'être maîtrisé.
L'histoire s'écrit tous les jours sur France Culture. Xavier Mauduit.
Ce fut une explosion gigantesque. Une ville, un peuple ont été blessés et même au-delà. Pourquoi une telle émotion ? Le cours de l'histoire fait escale dans un port millénaire, Beyrouth au Liban. Combien de fois cette ville a-t-elle été meurtrie pour toujours se relever ? De l'antique port phénicien au grand Liban français, de la ville mémoire à la guerre civile, Beyrouth est une ville qui ne cesse de se construire et de se reconstruire.
Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h05 sur France Culture et sur franceculture.fr.
Tous les jours sur France Culture à 11h, Culture Monde, le magazine sans frontières, Florian Delorme.
Culture Monde, c'est votre magazine international quotidien sur France Culture. Des grands thèmes d'actualité déclinés tout au long de la semaine, une approche comparatiste pour saisir la diversité et la complexité du monde, avec cette ambition, mieux comprendre comment les grandes questions de notre temps animent les relations internationales.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h et sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez bien France Culture. Avant de retrouver Toufik Hakem pour son réveil culturel dans quelques minutes, eh bien nous retrouvons un nouveau rendez-vous ce matin, le monde vivant avec vous, Bruno David, président du Muséum d'Histoire Naturelle. Bruno David, vous nous parlez moisissure.
Aimez-vous le Roquefort ? Voilà un fromage au goût prononcé, élaboré à partir de lait cru de brebis, et dont l'origine fait l'objet d'une légende. Un berger de jadis, coureur de jupons, aurait oublié ses brebis et son casse-croûte pour aller compter fleurettes à une belle. Le déjeuner, constitué de pain et de lait caillé de brebis, serait resté dans une grotte, faisant office d'abri temporaire. Quelques jours plus tard, celui-ci retrouva son déjeuner recouvert d'une pellicule de moisissure. Quelle poisse ! Que la vie serait belle sans moisissure ! Mais cette moisissure bleutée, semblable à celle que l'on retrouve parfois sur le pain trop vieux ou sur les fruits pourrissants, c'est du pénicillium. Et Penicillium roqueforti ayant fait son œuvre, notre berger légendaire, et quelque peu audacieux, aurait goûté son fromage moisi, découvrant ainsi son goût unique. Le roquefort était né. La légende est trop belle pour être vraie. Mais grâce à ce champignon, les humains se régalent de roquefort depuis le XIe siècle. Cette appellation d'origine protégée se caractérise par les conditions de température et d'humidité nécessaires au développement du Penicillium roqueforti. Ces conditions sont offertes dans les grottes ventilées par des failles, créant une ambiance idéale pour notre fromage, Minimum 80% d'humidité et température de 10 degrés en moyenne. Nos mycologues du Muséum national d'histoire naturelle, spécialistes de champignons donc, rendent toujours aujourd'hui des avis d'expertise sur les champignons impliqués dans la production de Roquefort. Mais ce brave pénicillium bénéficie également d'une place de choix dans l'histoire des sciences. Le 3 septembre 1928, le médecin anglais Alexander Fleming rentre de vacances et retrouve son laboratoire londonien. Il constate que certaines de ses boîtes de culture, sur lesquelles il fait pousser des staphylocoques, c'est-à-dire des bactéries, avec lesquelles il mène ses recherches, étaient contaminées par des moisissures. Encore ces foutues moisissures. Celles-ci sont une souche de champignons microscopiques, encore un pénicillium notatum cette fois, utilisé par son voisin de paillasse, le jeune Irlandais Charles Latouche, qui étudie cette espèce parce qu'elle cause des allergies. Fleming est sur le point de jeter ses boîtes lorsqu'il remarque qu'autour des colonies de champignons se sont formées des zones vides, un no man's land sur lequel les bactéries n'ont pas poussé. Il émet alors l'hypothèse que le champignon fabrique une substance antibactérienne qu'il nomme pénicilline. Même si la caractérisation chimique de cette substance n'est pas pour tout de suite, elle s'avérera être plus tard le tout premier antibiotique pour lequel, en 1945, Fleming recevra le prix Nobel de médecine. Cette chronique qui est dédiée aux découvertes faites par hasard, autrement dit à la sérendipité. Merci les moisissures.
Bonjour, bonjour, café, biscotte et France Culture pour se réveiller les neurones.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, le réveil culturel c'est tous les jours de la semaine, tôt le matin à la radio ou quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne ou le podcast disponible sur franceculture.fr. Et tous les mardis c'est l'actualité des expositions. Aujourd'hui je vous propose d'aller voir une expo à Paris si vous êtes de passage dans la capitale, une exposition consacrée aux Parisiens dans l'Exode. Alors bien sûr, aujourd'hui quand on parle de Paris, de l'Exode, spontanément on pense à l'Exode qu'on a connu ce printemps 2020, quand près de 20% des Parisiens se sont réfugiés en province dans les 2 jours précédant le confinement. Et pourtant, cette exposition, non, elle parle de 1940, de l'exode des Parisiens pendant la guerre, de la fuite massive de tous ces Parisiens qui quittent leur ville, leur maison, lorsque l'armée allemande envahit la Belgique, les Pays-Bas, une partie des territoires français. Et mon invitée ce matin, Sylvie Zedman, est la directrice du Musée de la Libération de Paris, où se tient l'exposition « Les Parisiens dans l'exode » jusqu'au 13 décembre.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour Sylvie Zedman.
Bonjour.
Vous avez travaillé et écrit sur la résistance et la répression en région parisienne pendant l'occupation. Vous êtes la directrice du Musée de la Libération de Paris. On devrait dire d'ailleurs le Musée de la Libération de Paris, Musée du Général Leclerc, Musée Jean Moulin. C'est bien ça?
C'est bien ça, c'est son nom entier.
Et vous êtes co-commissaire avec l'historienne britannique Anna Diamond de sa première exposition, puisque ce musée est plutôt récent, dans le 14e arrondissement, et cette première exposition a pour thème les Parisiens dans l'Exode, c'est-à-dire en 1940, après la débâcle du 10 mai 1940 des armées britanniques et françaises, des millions de civils français vont se retrouver sur les routes dans un chaos indescriptible, et parmi eux, près des 2/3 de la population parisienne, fuyant donc l'avancée allemande sur la capitale. Et cette exposition raconte cet épisode, ce traumatisme collectif, à travers des photos, des lettres, des dessins, à travers quelques films aussi, les journaux et autres documents de l'époque.
Oui, c'est-à-dire que lorsque nous avons conçu l'exposition permanente du musée, qui a ouvert le 25 août dernier pour le 75e anniversaire de la libération de Paris, nous nous sommes aperçus qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette période, sur ce moment clé, un moment charnière de notre histoire.
De cet été 1940, ouais, de quelques jours de juin.
Oui, six semaines de chaos. Et à partir de là, on s'est dit que ce serait très intéressant de faire une exposition pour permettre aux visiteurs de comprendre comment et pourquoi 2 millions de personnes, 2 millions de Parisiens se sont retrouvés sur les routes au milieu de 6 millions d'autres réfugiés durant cet été 1940.
Les autres réfugiés venaient des autres régions de France, mais aussi de Belgique et du Luxembourg.
Oui, si on reprend la chronologie, à partir du 10 mai 1940, c'est bel et bien, à partir de cette attaque allemande sur des pays neutres, qu'étaient à l'époque les Pays-Bas, le Luxembourg ou la Belgique, cette attaque a mis sur les routes énormément de populations civiles et aussi dans le nord de la France. Et donc toutes ces personnes se sont retrouvées sur les routes et la panique a gagné comme une contagion.
Alors Sylvie Zedman, cet été-là, cet été 1940 a été très documenté. Il y a beaucoup de photos de cette époque-là. Là, je prends une photo au hasard de l'Américain Karim Edans qui représente le grand embouteillage de l'Exode. Ça a créé des embouteillages. Alors bien sûr, les plus aisés ont pris leur voiture pour quitter Paris, mais les ouvriers, la classe populaire, elle s'est débrouillée avec les moyens du bord, hein, c'est-à-dire qu'à vélo, à pied, en brouette par tous les moyens entre le 3 et le 14 juin 1940 parce que la panique gagnait rapidement les Parisiens. Les trois quarts ou de...
Entre les deux tiers et les trois quarts. Paris avait 2,9 millions à peu près, 2,9 millions habitants.
Bien sûr, les photographies témoignent et montrent les routes encombrées mais aussi comment sont entassées les quelques affaires rassemblées à la hâte par les familles. Hein. C'est un détail qui, dans sa répétition, fait ressortir la panique de l'époque, le départ en catastrophe, et d'ailleurs qui résonne d'une manière assez étrange aujourd'hui, hein, pour des contextes complètement différents, mais on est dans cette panique-là.
Les contextes sont radicalement différents, mais on est toujours dans les mêmes mécanismes. En fait, la panique, elle ne surgit pas de nulle part. Et toute cette exposition s'emploie à montrer comment elle a pu naître, cette panique. On part, en fait, de l'entre-deux-guerres.
Oui, c'est très chronologique, hein. C'est didactique et chronologique. L'exposition assume ce côté chronologique, ouais.
L'histoire est chronologique. Et c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est de montrer ces étapes qui, en fait, vont nourrir la panique des Parisiens et qui vont les jeter sur les routes absolument sans savoir où ils allaient. Il y en avait qui voulaient rejoindre leur famille, mais c'était les armées allemandes qui les poussaient, en fait. C'est parce qu'il y avait des Allemands qui arrivaient, qui sont partis comme ça sur les routes. Et alors donc, on reprend, on essaye d'expliquer que durant l'entre-deux-guerres, tous les Français sont nourris par un certain nombre d'images. Et les images qu'ils ont en tête sont d'abord les images de la guerre de 14. C'est pour ça qu'on a mis dans l'exposition un objet qui semble un peu dérisoire, mais il s'agit d'une espèce de poche. Voilà, de poche.
Ouais, c'est le sac prêt pour l'exil.
C'est cela. Donc c'est un...
Ça date de la Première Guerre, vous voulez dire?
Alors, c'est une Belge qui l'a fabriquée en hâte lors de la Première Guerre mondiale pour fuir. Et quand elle s'est aperçue au 10 mai 40, que les Allemands allaient arriver, elle a refait les mêmes sacs pour elle et pour ses enfants. Donc il y a un rappel sans cesse de cette Première Guerre mondiale, comme il y a un rappel dans les esprits de la guerre civile en Espagne. Parce qu'à partir de 1936, les actualités que voient les gens dans les cinémas, puisqu'on regardait les actualités au cinéma, sont nourries d'images de civils bombardés. Et donc en fait ça nourrit une certaine idée auprès de la population qui se rend bien compte que pour la prochaine guerre, les civils seront au cœur de la guerre.
L'Exode, raconté donc 80 ans après les faits et dans un parcours chronologique, ça vous venez de le préciser, Sylvie Zedman, et un cheminement en 7 étapes. Il y a beaucoup de photos. Alors ces photos-là, elles veulent témoigner de quoi à l'époque? Elles nous disent quoi aujourd'hui?
Figurez-vous que dans cet espace de temps, on reparlera de la chronologie, mais c'est très très court, hein, vous l'avez dit, entre le 3 juin et le 14 juin, les Parisiens se...
Et le gros, c'est entre le 10 et le 14, ouais.
Donc vraiment une chronologie très très courte. Personne n'a idée vraiment de prendre des photos, mais si, il y a des gens qui prennent des photos. D'abord, on a retrouvé des photographies d'une famille anglaise, le père avait un appareil photo, et au cours de son exode, il a pris quelques clichés. Voilà, ils étaient tous à vélo et il a pris quelques photographies. On a aussi
donc impliqué dans l'exode. Hein.
Impliqué, oui, parti. On a aussi des reporters comme Karl Maitens qui effectivement font quelques photos. On a beaucoup de photographies du premier exil, c'est-à-dire au moment où les Belges sont sur les routes. Et les Français ne se sentent pas du tout concernés à cette époque-là. Au 10 mai, les Français sont tellement peu concernés par cette histoire. Donc il y a des photos qui sont prises de ces Belges qui sont lancés sur les routes. Et puis, à partir du mois de juin, ce sont les Allemands qui prennent des photographies et qui montrent à quel point la France est complètement désorganisée.
Donc pour des raisons de propagande.
De propagande. Et parfois pour eux-mêmes. On a trouvé des photographies d'Allemands qui ont fait ces photos pour eux-mêmes, des photos d'amateurs.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
De joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bar du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux, et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par nous, elle a envie de chanter ses physiques. Tout son être étendu, son souffle est suspendu, c'est une œuvre étordue de la musique. Quand ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, il y a un autre artiste qui loue toute la nuit. Elle écoute la java.
Voilà, cette chanson d'Edith Piaf date de 1940, Sylvie Zeidman, juste avant l'exode. Je rappelle que vous êtes co-commissaire de cette exposition qui a lieu en ce moment au Musée de la Libération à Paris dans le 14e arrondissement, Les Parisiens dans l'exode. Photos, films, objets comme ce sac prêt pour l'exil, mais aussi l'histoire est présente avec des témoignages, l'histoire est présente aussi avec quelques grandes figures de l'histoire. Par exemple, Jean Moulin avant la Résistance, quand il est encore préfet et qu'il est bousculé par cet exode.
Oui, Jean Moulin, donc préfet d'Eure-et-Loire, qui est en poste à Chartres et qui a été mobilisé juste une semaine. Il a une quarantaine d'années à l'époque. C'est un homme qui a déjà une belle carrière derrière lui, une belle carrière de préfet. C'est quelqu'un qui sait qu'il représente la France. Il a fait aussi une partie de sa carrière dans les cabinets ministériels, avec Pierre Cotte. Et donc, c'est quelqu'un d'expérience à l'époque. Et ce qu'il raconte dans ses mémoires, qui s'appelle « Premier combat », c'est qu'en fait, Chartres est complètement vidée de ses habitants en 1940. Les gens partent aussi de Chartres. Ils ont peur, les Allemands sont aux portes. Et donc, il n'y reste plus que 800 habitants à Chartres. Il raconte qu'il n'y a même plus de paysans dans les environs. Et tout d'un coup arrive ce qu'il appelle le flot monstrueux de la région parisienne. Des millions qui déferlent sur la ville et que lui, préfet qui est resté sur place, va devoir nourrir, loger, aider, parce que ce sont des gens en détresse. Chartres essuie des bombardements et il va falloir qu'il organise tout ça. Et il le raconte avec une acuité, ce livre, il faut le lire. Premier combat, il faut le lire. Et donc, voilà, ce préfet se retrouve aux premières loges. Et ce n'est pas encore le préfet Jean Moulin, le grand résistant Jean Moulin, mais c'est déjà les prémices.
On parle aussi de tous les documents de cette exposition, en plus des témoignages, en plus des photos, mais il y a aussi des dessins.
Il s'agit de dessins qui ont été faits par des jeunes filles d'à peu de 14 ans, qui étudiaient dans des écoles, une école rue de Patay dans le 13e et une école rue de Charenton dans le 12e. Et elles avaient une institutrice, Madame Jouclard, qui les a fait travailler sur l'exode. C'est-à-dire que quand elles ont repris l'école, en 1940, après ces événements-là, donc fin 1940 ou début 1941, leur professeur de dessin leur a dit « dessinez-moi l'exode ». Et donc, ces dessins sont d'une fraîcheur magnifique. C'est vraiment, esthétiquement, ils sont extrêmement réussis. Ils sont pleins de couleurs, pleins de vie et pleins de mort. Et c'est grâce à ces dessins qu'on se rend compte que ces petites jeunes filles, elles ont vu en face la guerre.
Conservés par qui, ces dessins?
Ils sont conservés au Musée National de l'Éducation, qui est à Rouen et qui a reçu le fonds de Madame Jouclard. Madame Jouclard a déposé tous les dessins qu'elle avait conservés par Deverel, dont ces magnifiques dessins sur l'Exode.
Ils étaient combien, les Parisiens, à prendre les routes de l'Exode?
En tout, on évalue à 2 millions de personnes. C'est absolument incroyable.
Et sur les 2 millions, combien sont-ils revenus chez eux après le fameux discours du maréchal Pétain?
Pétain, le 16 juin, puisqu'on reparle chronologie, les Parisiens partent un petit peu avant le 3 juin, surtout vers le 3 juin. Le 10 juin, le gouvernement quitte la capitale de manière assez discrète, mais quand même. Et donc les Parisiens sont vraiment rendus compte que la guerre était à leur porte quand le 3 juin, le premier bombardement est tombé sur Paris. Donc tout le monde fuit. Le 14 juin, les Allemands rentrent dans Paris. Et le 16 juin, un nouveau chef du gouvernement est nommé, c'est le maréchal Pétain. Pourquoi le maréchal Pétain? Parce que c'est un homme qui a la confiance des Français, c'est un homme qui est vu largement...
Le héros de la Première Guerre.
Exactement, comme un héros, et puis comme une personne à qui on peut faire confiance. Et donc, à ce moment-là, le flot des départs, le flot sur les routes se tarit, et à partir du 22 juin, quand l'armistice est signé, les gens vont revenir petit à petit chez eux. Alors, difficilement, puisqu'il y a une ligne de démarcation qui coupe la France en deux. Et en plus, il faut savoir que d'autres parties de la France sont complètement dépecées, annexées, gérées autrement, etc. C'est plus la même France. Et les gens vont rentrer chez eux et on estime qu'ils vont rentrer globalement, ils seront tous de retour à la rentrée, c'est-à-dire en septembre 40. Durant l'été 40, tout le monde rentre. Tout le monde, sauf quelques-uns qui décident de ne pas rentrer. Ça, c'est une autre histoire.
Et une partie de l'exposition, Sylvie Zedman, nous parle justement de ces enfants, de l'Exode, dans l'Exode.
Il faut voir ce que les gens ont affronté durant l'Exode, sur les routes de l'Exode. Ce qu'ils ont affronté, ce sont des bombardements, ce sont des mitraillages, notamment des avions allemands, bien sûr, de l'aviation allemande. Et donc, un chaos indescriptible, comme je disais. Ils traversent des villages et des villes où il n'y a plus personne, il n'y a plus un médecin, il n'y a plus un boulanger. C'est vraiment quelque chose d'assez terrible. Ils n'arrivent pas à se réapprovisionner. On a des récits, on sait qu'on ne trouve plus de fossoyeurs pour enterrer les morts. Il n'y a plus personne. Dans d'autres villages, par contre, la population est restée. Allez savoir pourquoi. Et en tout cas, lancés sur ces routes, au milieu de cette panique, les familles se sont complètement séparées. Et on a pu trouver des archives aux Archives nationales, et on s'est aperçu qu'effectivement, 90 000 enfants, hein, c'est un chiffre incroyable, avaient été séparés de leur famille, d'une manière ou d'une autre. Et il va y avoir tout un travail pour essayer de retrouver ces enfants, de retrouver les familles. On va essayer de recoller les morceaux de cette société qui a été brisée par l'Exode.
Dans cette exposition, il y a aussi la communication des nazis, des Allemands, qui est très très présente pour bien expliquer cette période très précise de la Deuxième Guerre mondiale.
On a par exemple voulu montrer une affiche qui est très connue du reste, qui fait partie de nos collections, qui est une affiche qui montre un soldat allemand qui tient des enfants, des petits enfants français et qui leur donne à manger en quelque sorte, avec le slogan "Population abandonnée, faites confiance
aux soldats allemands". Voilà, une affiche de 1940.
Et c'est une affiche qui signifie effectivement que les populations françaises ont été abandonnées par leur propre gouvernement, par leur propre administration qui n'a pas été capable de les encadrer, de les aider et surtout de les protéger.
Est-ce que les images qu'on voit, est-ce que les témoignages que vous avez recueillis et qui sont présents dans cette exposition 1940, les Parisiens dans l'Exode, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu de la solidarité entre tous ces Parisiens, tous ces Français paniqués qui quittent leur maison à la va-vite?
Alors on a eu de tout. hein, c'est la nature humaine. On a vu des cas extrêmement tragiques, invraisemblables presque, de panique telle qu'on en a été à un certain endroit à achever les mourants pour pas avoir à les transporter et pour pouvoir partir plus vite. Et puis on a vu aussi des témoignages de solidarité absolument incroyables de la part des villageois, des gens dans les villes qui recevaient ces réfugiés et qui les aidaient. On a parlé de Jean Moulin, mais il faut voir que dans la population de certaines villes a augmenté de manière incroyable, puisque avec cette arrivée de réfugiés, Cahors est passé de 13 000 à 78 000 habitants, par exemple, ou Périgueux de 30 000 à 150 000 habitants. Et sur place, les administrations qui, elles, bon, étaient restées, elles sont loin de l'avancée allemande, les administrations et même la population ont fait beaucoup pour accueillir au mieux tous ces réfugiés.
Des histoires donc individuelles pour une destinée collective. Vous voulez terminer avec ça, Sylvie Zedman?
Oui, je voulais dire que si bon, on a parlé de nos échelles, de la temporalité, il faut voir enfin que c'est d'abord un moment complètement décisif puisque l'arrivée du maréchal Pétain, l'annonce de l'armistice, si elle calme l'exode, va ouvrir une nouvelle page. Et qui est la page de l'occupation de la France, hein, qui est quand même un moment très, très douloureux, un passé très douloureux. Mais je voulais dire que cet exode, finalement, n'a pas trouvé sa place dans notre roman national. Notre roman national parle de l'occupation, de la résistance, de la répression. Il parle aussi beaucoup de la libération. Hein, et puis nous, au Musée de la Libération de Paris, on le montre. Et finalement, ce moment d'humiliation, ce moment pas très glorieux de Parisiens sur les routes, on n'en fait pas trop mention. Donc, c'est devenu une histoire qui est une histoire familiale, qui se transmet familialement, qui, on le voit dans notre livre d'or, nos visiteurs rentrent en contact avec nous, nous racontent les histoires familiales, mais qui n'a pas sa place dans le roman national. Alors, effectivement, c'est par le cinéma, notamment, par aussi quelques livres, quelques œuvres littéraires fameuses, que finalement on recolle les morceaux. Et donc, on a été vraiment très surpris de voir que Jeux interdits, par exemple, aujourd'hui, incarne le mieux ce moment d'histoire qu'est l'Exode.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Merci Sylvie Zedman. Je rappelle que vous êtes la directrice du Musée de la Libération de Paris, Musée du Général Leclerc, Musée Jean Moulin. Et que cette exposition consacrée aux Parisiens dans l'Exode en 1940 a lieu jusqu'au 13 décembre. Bonne matinée sur France Culture et à demain. Demain on se retrouve en compagnie de Gaspard Noé, le réalisateur.
L'esprit d'ouverture. Informer, réagir, le matin sur France Culture, Guillaume Erner.
Rentrée des classes pour les uns, lutte des classes pour les autres. Les matins sont sur tous les fronts et pas seulement celui de la pandémie. Retrouvez vos rendez-vous d'actualité dès 6h57. Du billet politique à la revue de presse internationale, France Culture vous informe chaque jour et éclaire l'actualité.
Les matins de France Culture, du lundi au vendredi de 7h à 9h et sur franceculture.fr. Affaires culturelles sur France Culture, Arnaud Laporte.
Affaires culturelles s'engage pour la culture et la création, une émission en trois parties, un grand entretien avec un artiste, Affaires en cours, un objet culturel qui se trouve relié à une question de société, Affaires à suivre, des nouvelles du secteur culturel dans les régions et à l'étranger.
Affaires culturelles, du lundi au vendredi à 19h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Information coronavirus. Le virus est toujours là et nous pouvons tous être contaminés. Pour stopper la transmission, chacun doit être responsable. Dès l'apparition de signes, même légers, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, le nez qui coule ou la perte du goût et de l'odorat, contactez rapidement votre médecin pour qu'il décide si vous devez être testé. En attendant les résultats du test, restez chez vous et évitez tout contact, surtout avec les personnes fragiles. Ensemble, bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000, appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Au moins 1800 personnes sont mortes chez elles à cause du Covid-19 entre les mois de mars et de mai ce printemps. Le chiffre est une première, il vient d'une longue étude de l'INSERM, car vous l'entendrez dans ce journal, il a fallu du temps pour faire remonter les données. À suivre aussi le point sur la production de masques textiles en France en cette rentrée 2020. Les entreprises s'organisent et les stocks grandissent. Donald Trump attaque les démocrates américains en ouverture de la convention républicaine. Il doit y être investi pour la présidentielle de novembre. Nous revivrons la soirée d'hier dans quelques minutes. Et puis nous irons en Lituanie où l'opposante belarusse Svetlana Tikhanovskaya a rencontré des émissaires américains et européens hier. Les occidentaux prennent position face à la crise en Biélorussie. On connaît donc maintenant à peu près le nombre de décès du Covid-19 survenus à domicile. La Direction générale de la Santé ne communiquait jusqu'à présent que sur les décès dans les établissements hospitaliers et dans les EHPAD. Les décès à domicile étant plus difficiles à comptabiliser car les données plus lentes à remonter. Il a donc fallu attendre quelques mois pour avoir ce chiffre, Daniel Messager.
1871, c'est le nombre de décès à domicile entre début mars et fin mai, un chiffre qui vient donc s'ajouter aux 30 528 personnes mortes, soit dans les établissements hospitaliers, soit dans les EHPAD. C'est le Centre d'épidémiologie sur les causes de décès de l'INSERM qui les a communiqués, estimant que les données étaient fiables, puisqu'aujourd'hui, un peu plus de 90% des certificats de décès avec mention Covid-19 sont connus. Mais pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour connaître le nombre de personnes décédées chez elles? C'est parce que seulement un quart des notifications sont réalisées de façon électronique, alors que le système avait été mis en place après la canicule de 2003, justement pour faciliter ces connaissances. Les autres certificats de décès sont établis sur papier, ce qui prend beaucoup de temps pour remonter aux différents organismes, dont Santé publique France. Il manque encore près de 10% des informations. Celles en provenance de Normandie, Guyane ou du Nord ne sont pas complètes. Le nombre de morts est donc sans doute encore un peu en deçà de la réalité.
Au total, ce sont donc plus de 32 000 personnes qui sont décédées en France à cause du Covid-19. Ce matin, Emmanuel Macron, le président, réunit son conseil de défense à l'Élysée. Un organe restreint d'arbitrage sur la gestion des mesures contre l'épidémie. Seront notamment présents le Premier ministre Jean Castex, le ministre de la Santé Olivier Véran ou de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Car il y a de la pédagogie à faire quand tout le monde doit reprendre masqué le chemin du collège, du lycée ou du bureau. Nous vous proposons ce matin un point sur la filière des masques, justement, en France. Où en est la production pour que nous soyons tous masqués? Réponse de Guillaume Gibault, patron de l'entreprise textile Le Slip Français. Il est chargé par le gouvernement de trouver des débouchés pour la production française de masques.
Alors pour ce qui concerne les masques textiles grand public, on est capable de fabriquer entre 20 et 25 millions de masques par semaine. Donc clairement, il y a largement de quoi fabriquer assez de masques textiles pour subvenir aux besoins dans le cas d'une deuxième vague ou en tout cas dans le cas des conditions plus strictes qu'on est en train de vivre et qu'on voit changer au jour le jour. Pour vous donner un ordre d'idée, au plus fort de la crise, au mois de fin avril, début mai, on fabriquait 5 millions de masques par jour. Au sein du groupement Savoir-Faire Ensemble qui comptait jusqu'à 1400 entreprises. Aujourd'hui, il reste à peu près 500 entreprises qui reste mobilisé en France pour la fabrication de masques textiles. Et si tout le monde se met à plein régime de fabrication, ça donne ces 20-25 millions par semaine. Donc en tout cas, pour ce qui est des masques textiles qui sont pas les masques qui servent le personnel soignant, mais qui sont les masques pour le grand public, comme le nom l'indique, là, il y aura pas de rupture de stock sur ces masques-là. On est plutôt aujourd'hui encore dans la situation inverse, encore pas mal de stock auprès chez les fabricants et chez la distribution au sens large.
Des propos recueillis par Stanislas Vazak. Pour soutenir les petites et moyennes entreprises, maintenant, le ministre de l'économie Bruno Le Maire précise ses intentions dans les colonnes des Échos ce matin. Les PME vont bénéficier d'un nouveau système d'emprunt à très long terme. Voilà ce que dit Bruno Le Maire à une semaine de la présentation du plan de relance. La situation épidémique en France encore, qui fait peur à l'Allemagne. Berlin déconseille les voyages à destination de la région parisienne et de la Côte d'Azur. L'Allemagne évoque la recrudescence des cas de nouveaux coronavirus dans ces régions françaises. Après les démocrates la semaine dernière, c'est au tour des républicains américains d'organiser cette semaine leur convention nationale pour investir leur candidat, Donald Trump. Il doit accepter sa nomination jeudi soir, première soirée de convention hier, soirée durant laquelle le camp républicain a défendu le bilan de Trump à la Maison Blanche. Retour sur cette soirée avec notre correspondant Grégory Phillips.
Pendant 2h30, tout ou presque tourne autour de Donald Trump, sa personnalité ou ses résultats, son bilan économique, les milliers de vies qu'il a sauvées pendant l'épidémie de coronavirus, selon une infirmière de Virginie-Occidentale, appelée à témoigner dans cet auditorium de Washington. Même le fils du président a été convié à la tribune.
Good evening, America. I'm Donald Trump Jr.
Donald Trump Jr. accuse Joe Biden d'être la marionnette de la gauche radicale.
From St. Louis, Missouri.
Et puis voici, enregistré chez eux, Patricia et Mark McCloskey, ce couple de Saint-Louis, Missouri, qu'on avait vu fin juin, arme à la main, défendre sa maison et menacer des manifestants Black Lives Matter. Si Biden est élu, assure-t-il, alors ce sera le chaos et la fin de la tranquillité pour nos banlieues. Donald Trump, lui, est intervenu un peu plus tôt dans la journée, depuis Charlotte, en Caroline du Nord, lieu officiel de la convention, pour accuser les démocrates de vouloir voler l'élection. Cette histoire de vote par correspondance et ces 80 millions de bulletins envoyés à des électeurs, ça n'est pas juste, ça n'est pas bien. Faites très attention, surveillez bien ce qui va se passer, parce que nous devons gagner. C'est l'élection la plus importante de toute l'histoire de notre pays. Tim Scott, le seul sénateur noir du Parti républicain, conclut cette première soirée avec un discours plus consensuel et à même de séduire au-delà de la base des militants trumpistes. Ce soir, on attend les prises de parole du secrétaire d'État Mike Pompeo et de l'épouse du président, Melania Trump.
Donald Trump au centre du jeu républicain, on y reviendra après ce journal, dès le journal des idées d'ailleurs, avec Jacques Munier. Lui a été réélu il y a deux semaines au pouvoir depuis 26 ans maintenant. Il est accusé d'opacité, d'avoir organisé des élections biaisées et de réprimer depuis les manifestants. Alexandre Loukachenko en Biélorussie poursuit les arrestations d'opposants. Hier, les Occidentaux ont fini par monter au créneau. Des représentants américains et européens ont rencontré l'opposante Svetlana Tikhanovskaya. Elle s'est réfugiée en Lituanie. Sur place se trouve Eric Biegala.
La diplomatie américaine avait dépêché à Vilnius son numéro 2, le sous-secrétaire d'État Stephen Biegun, qui s'est entretenu avec Svetlana Tikhanovskaya, la championne de l'opposition au régime de Loukachenko. En l'occurrence, le State Department acquiesce aux demandes de cette opposition pas d'ingérence dans la politique biélorusse tout en esquissant un soutien.
Nous considérons que le mieux que l'on puisse faire, c'est de soutenir le peuple de Biélorussie. Et au bout du compte, ce sera à lui de décider de son avenir. Et nous respecterons son choix.
En clair, les États-Unis soutiennent l'organisation de nouvelles élections en Biélorussie, la revendication principale de l'opposition à Loukachenko. Côté Union européenne, c'est le député européen français Stéphane Séjourné qui avait fait le déplacement à Vilnius hier et lui promet de se faire le relais de l'autre demande de Svetlana Tikhanovskaya qu'il a également rencontrée.
Elle demande qu'on mette de la pression politique sur le pouvoir en place par rapport aux prisonniers politiques. Il y a deux membres de la coordination qui se sont fait encore arrêter et c'est là-dessus qu'on peut éventuellement, nous, avoir un rôle politique.
Après avoir entendu l'opposition, les Occidentaux devraient maintenant aller voir l'autre parti. L'Américain Stephen Biegun s'envole ce matin pour Moscou, où l'on trouve les principaux parrains du régime de Loukachenko.
C'était notre envoyé spécial Eric Biegala, accompagné de Gilles Gallinaro. L'Allemagne conclut à l'empoisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny, accueilli sur son sol. Berlin a demandé hier à la Russie d'en juger les auteurs. Et sachez que dans la foulée, l'Union européenne appelait Moscou à une enquête transparente transparente et indépendante. En Tunisie, la révolution est passée, voilà 10 ans maintenant, mais le pays traverse toujours une récession sans précédent, couplée à une crise politique. Cette nuit, le nouveau Premier ministre, Hichem Mechichi, a présenté son gouvernement, un gouvernement de dernière chance, Maureen Mercier.
Hichem Mechichi a déjà un mérite, celui de tenir parole. Il avait promis un gouvernement composé de technocrates, refusant de se soumettre aux partis politiques qui avaient pour obsession d'y placer leurs membres. En choisissant comme Premier ministre Hichem Mechichi, 46 ans, indépendant, le président Kais Saied avait lancé un signal très clair au parti. Fini les querelles pour le pouvoir qui depuis des mois paralyse l'Assemblée. Le pays ne peut plus le supporter, d'autant que la récession économique est sans précédent, aggravé par le Covid. Le taux de chômage officiel frise désormais les 19%. Problème, c'est justement ce Parlement qui doit maintenant accorder sa confiance au nouveau gouvernement. Deux options. Soit le Parlement refuse, dans ce cas l'Assemblée sera dissoute, le pays ira vers de nouvelles élections législatives. Soit le gouvernement passe la rampe et Hichem Mechichi n'aura pas la tâche facile. Depuis les élections législatives d'octobre dernier, le pays a déjà connu deux gouvernements. Un jeune prédit, le Parlement finira par valider ce gouvernement uniquement parce que les députés, tous des incapables, voudront conserver leur siège. Verdict d'ici quelques jours.
Et l'on suivra cela avec vous, Maureen Mercier, correspondante de France Culture à Tunis. De la pluie est attendue sur le quart nord-ouest de la France métropolitaine ce mardi. Face au reste du pays, en revanche, bien ensoleillé. Ce matin, comptez 16 à 24 degrés du nord au sud. 6h40 sur France Culture. Comme annoncé, nous évoquons Donald Trump avec vous, Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
C'est votre journal des idées. À un peu plus de 2 mois de l'élection présidentielle aux États-Unis, la commission d'investiture républicaine cette semaine a lieu et elle semble dominée par l'ambition personnelle de Trump.
Oui, au point que le parti républicain est devenu une machine placée au service exclusif du président, où la loyauté à l'égard de ce dernier compte plus que les vieux principes comme la discipline budgétaire ou le libre-échange, observe Gilles Paris dans Le Monde. Donald Trump a repris depuis juillet ses points de presse, en principe consacrés à l'épidémie, mais de fait destinés à compenser l'impossibilité de multiplier les meetings de campagne. Et contrairement à l'usage, il envisage de s'exprimer tous les soirs jusqu'au discours d'investiture. Il faut dire que la tâche est ardue, distancié dans les sondages par son adversaire démocrate. Trump est jugé sévèrement par les Américains pour sa gestion de la crise sanitaire. Dans les pages idées du quotidien Le Monde, l'écrivain Douglas Kennedy s'en prend notamment aux positions du président et de ses soutiens les plus fervents à l'égard du masque. Un truc de mauviette. Les vrais bons machos 100% américains n'ont pas besoin d'une protection faciale aussi émasculatrice. Seuls les poltrons efféminés, multiculturalistes et politiquement corrects portent le masque et, ce faisant, renoncent à l'individualisme forcené qui est l'une des pierres angulaires de notre identité nationale. Douglas Kennedy rapporte ce clivage à celui qui oppose depuis des décennies les tenants d'un darwinisme social où l'intérêt personnel est le seul but, assorti au laisser-faire capitaliste, à des conceptions plus solidaires du bien commun. Les États-Unis connaissent depuis 52 ans, écrit-il, une sinistre guerre culturelle qui remonte à l'élection de Nixon en 1968 après une campagne qui avait divisé le pays entre une prétendue majorité silencieuse d'Américains pieux et conservateurs et les progressistes des deux côtés. L'anti-intellectualisme, le fondamentalisme chrétien et la supériorité misogynie de l'homme blanc sont les principes directeurs de cette Amérique profonde, en colère, celle-là même qui a porté Donald Trump au pouvoir. Ce clivage s'illustre également à propos de la discrimination positive, un ensemble de mesures visant à améliorer l'accès à l'université et à l'emploi de membres de groupes considérés comme historiquement désavantagés comme les Afro-Américains et les Amérindiens. Comme le rappelle dans le Figaro Vox, Paul May, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, spécialiste du multiculturalisme et qui a enseigné à Harvard, pour ses partisans, la discrimination positive est considérée comme la continuation de la lutte pour les droits civiques. Pour ses contempteurs, elle se fait nécessairement au détriment de personnes plus méritantes. Aujourd'hui, des procès sont intentés contre certaines grandes universités comme Harvard ou Yale au motif des effets pervers de l'affirmative action qui désavantagerait les étudiants d'origine asiatique. La sortie, à point nommé, d'un rapport du ministère de la Justice qui affirme que les étudiants d'origine asiatique ou blancs auraient entre 4 et 10 fois moins de chances d'être admis à l'université de Yale que les candidats noirs américains, vient alimenter la polémique qui ne manquera pas d'être instrumentalisée dans la campagne présidentielle par les partisans de Donald Trump. Car le but des opposants à la discrimination positive n'est pas seulement de l'aménager, mais consiste à la proscrire définitivement par le biais d'une décision de la Cour suprême. Or, les discriminations, quant à elles, demeurent. Dans les pages Idées de Libération, la romancière Lily Brett évoque l'espoir de changement qui naît avec le mouvement Black Lives Matter. Depuis que la vidéo du meurtre de George Floyd a été rendue publique, écrit-elle, ce mouvement a gagné une audience et une puissance inédite. La colère monte au sein d'une grande partie de la population et nous sommes de plus en plus nombreux à prendre enfin la mesure du nombre d'hommes noirs qui ont été assassinés par la police et continuent de l'être. Lily Brett estime que le nombre ne cesse d'augmenter de ceux qui espèrent que la refonte attendue de la santé publique, de l'éducation, des soins infantiles et du système judiciaire pourrait enfin avoir lieu et que nous sommes désormais, de par le monde, au-delà des différences, si nombreuses, si nombreux à espérer que le racisme et les discriminations vont enfin diminuer. Mais pour le président Trump, rappelle-t-elle, le mouvement Black Lives Matter n'est qu'un symbole de haine. Ce dimanche encore, un policier de Kenosha dans le Wisconsin a tiré 7 fois dans le dos de Jacob Blake, un Africain-Américain désarmé sous les yeux de ses enfants. Très grièvement blessé, l'homme a été transporté dans un hôpital de Milwaukee où il se trouve depuis entre la vie et la mort. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Avec vous, Julie Gacon.
Bonjour, bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Et nous sommes raccord, Julie, puisque vous revenez sur la convention républicaine aux États-Unis avec votre invité.
Oui, la convention dite d'investiture, mais qui a déjà quasiment investi en quelque sorte, puisqu'au moment même où Donald Trump posait les pieds à Charlotte en Caroline du Nord, les délégués du parti républicain lui donnaient le nombre de voix nécessaires pour être leur candidat. Alors rien n'obligeait le président américain à prendre la parole des hier, mais il y tenait notamment pour dénoncer les mesures de lutte contre le coronavirus prises dans certains États et plus généralement toutes les mesures de restriction imposées par les autorités sanitaires. On pensait que la pandémie et ses 175 000 morts enregistrées à ce jour aux États-Unis auraient peut-être changé le parti républicain. Il semble plutôt qu'il ait renforcé les convictions de Donald Trump. Bonjour Marie-Cécile Nave.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue, chercheuse à l'IRIS. Un mot sur le ton de cette convention républicaine à quelques jours de la convention démocrate, à qui s'est adressé Donald Trump?
Comme prévu, c'est une convention qui est à la gloire du président candidat, lequel s'adresse essentiellement à une base électorale galvanisée, très partisane, et non pas à un électorat élargi. Mais ça fait longtemps qu'on sait qu'il ne cherche pas à élargir ses plus fervents supporters, parce que lui, il compte sur le fait que ce sont des gens qui vont se mobiliser en masse le 3 novembre, même avant le 3 novembre avec le vote anticipé, le vote par correspondance. Mais ça, c'est un autre sujet, on en parlera peut-être. Et pas du tout à élargir sa base électorale, d'une part avec son style, d'autre part avec un agenda qui serait plus rassembleur, qui serait plus marqué par les valeurs de solidarité, d'empathie, de lutte contre les discriminations, contre les minorités, alors qu'il y a une vraie demande pour ça. Et autant la Convention démocrate était marquée par la gravité, par la volonté de responsabiliser les électeurs, parce que Donald Trump est considéré comme quelqu'un de dangereux, mettant en danger les institutions, la démocratie. Autant la Convention républicaine ressemble vraiment à un show de télé-réalité. On s'en doutait, mais on le voit déjà avec la plupart des orateurs qui, pour l'instant, sont la famille Trump elle-même. Et comme une glorification du chef, un culte du chef qui, comme souvent chez Trump, mélange la réalité, la fiction et le show. On est vraiment dans le divertissement. Mais Trump, c'est un homme de divertissement, de télé-réalité avant tout.
Mais donc, est-ce qu'il mise sur le fait que ses électeurs ou ses potentiels futurs électeurs n'ont de toute façon pas peur du virus, qu'ils n'ont pas eux-mêmes été malades, que personne dans leur famille ne l'a été? Enfin, c'est aussi prendre un pari risqué.
Alors, sur le coronavirus, c'est un peu risqué en effet, parce que depuis le printemps, il a perdu du crédit auprès de certaines catégories de la population dont il ne peut pas se passer pour l'emporter. En particulier, les seniors de plus de 65 ans, qu'on trouve dans le camp républicain modéré ou chez les indépendants, qui sont des gens qui se déplacent beaucoup pour aller voter. beaucoup plus que les moins de 30 ans, par exemple. Et puis, il a continué à perdre du terrain chez les femmes. Chez les femmes, et là, on parle de manière très générale, parce qu'il faudrait croiser avec l'origine, le lieu de résidence, le niveau d'études, etc. Chez les femmes, il y a un gap de plus de 20%, 20, 23, 25% d'intention de vote entre Biden et Trump. C'est considérable. Et les femmes qui sont peut-être plus sensibles par leur expérience de vie, par les stéréotypes de genre, etc., aux enjeux de santé, de soins de l'autre, d'empathie, protection de la famille, etc., eh bien, ont été très, très chagrinées, préoccupées par la très mauvaise gestion, objectivement, de la pandémie par le président.
C'était l'objet d'un reportage dans le journal La Croix hier, dans une communauté pour seniors, comme on dit, en Floride, où les électeurs blancs et républicains qui avaient été essentiels à la victoire de Trump dans cet État face à Hillary Clinton disent pour beaucoup aujourd'hui qu'ils iront voter contre Trump, au risque d'ailleurs de se faire rayer leur voiture de golf ou de se faire polluer le bas de leur porte par des crottes de chien. Donc on est dans quelque chose de très nouveau. Marie-Cécile Nave, par ailleurs, les démocrates, eux, ils ont fait du virus un de leurs arguments de campagne. En tout cas, ils promettent des tests rapides et massifs, une production nationale des équipements médicaux et de protection et le vote par correspondance. Donald Trump, aujourd'hui, dit que le vote par correspondance, c'est un moyen de fraude massif, comme s'il justifiait par anticipation une éventuelle défaite. C'est bizarre de remettre ça toujours sur la table. On a des, je sais pas, il y a des études qui montrent que le vote par correspondance aux États-Unis est un moyen de fraude.
Les études montrent qu'au contraire, c'est un vote qui est très sûr. Mais on retrouve les mêmes arguments qu'il avait utilisés en 2016. Pour résumer, si je perds, c'est que les démocrates auront triché. Et puis là, il devance, il en a déjà parlé hier à sa première intervention à la Convention républicaine, il devance les critiques, il retourne contre l'adversaire les critiques que cet adversaire lui formule. C'est un classique chez lui, à savoir les démocrates vont tricher, ils veulent vous voler l'élection. Vous voler, vous le peuple, ils veulent vous voler l'élection. Alors que, objectivement, en toute objectivité, hein, les soupçons de fraude électorale sont plutôt du côté de Trump. C'est-à-dire, il a nommé à la tête de l'US Postal, l'équivalent de la Poste, un ancien donateur qui est soupçonné de vouloir couper les fonds au fonctionnement de la poste, de supprimer des boîtes aux lettres.
Une institution qui est très très populaire aux États-Unis.
Qui est très très populaire, l'US Postal c'est très populaire, d'enlever des boîtes aux lettres dans la rue, etc. Parce que le vote par correspondance va être plutôt utilisé par les démocrates que par les républicains. Et aujourd'hui, avec la pandémie, 80% de l'électorat américain est éligible au vote par correspondance. Alors que d'habitude, c'est vraiment, il faut avoir des très bonnes raisons pour demander de voter par correspondance, être malade, être loin de son domicile pour des raisons professionnelles. Là, à cause de la pandémie, des conditions sanitaires, 80% de la population est éligible. Donc, comme il sait que ça va être plutôt utilisé par les démocrates, il fait tout pour les dissuader d'aller voter et d'empêcher que ça se passe bien.
Marie-Cécile Nave, la crise sanitaire, elle a aussi sapé ce qui était le principal argument de Donald Trump jusqu'à il y a quelques mois, c'était la bonne santé de l'économie américaine. Bon, là, on peut au moins lui octroyer et lui accorder le fait qu'il n'y est pour rien.
Oui, mais il était déjà pas pour grand-chose sur la baisse du chômage et la hausse de la croissance depuis qu'il avait été élu, parce que c'était non, mais c'est vrai, c'était un processus, une dynamique qui avait été enclenchée depuis la fin de la crise de 2007-2008. En particulier par le pouvoir précédent, mais pas seulement. Si un président d'une démocratie avait le pouvoir à lui seul de restaurer la croissance et de faire baisser le chômage, honnêtement, ça saurait et les recettes circuleraient d'un pays à l'autre. Mais effectivement, c'était son gros argument. Alors la bourse continue de monter, ça c'est quand même un très bon point pour lui, pour un électorat qui n'est pas forcément défavorisé, peu diplômé, mais un électorat qui compte pour lui, qui est un électorat des CSP+, du monde des affaires, qui est aussi une très grande partie de son électorat, peut-être même la majorité. Et puis donc, ça a pour conséquence, en termes de stratégie pour lui, de se recentrer sur les questions de, guerre culturelle, d'obsession identitaire, d'obsession sécuritaire. Il est encore plus dans cette rhétorique de l'Amérique est en danger, elle est en danger à cause de la gauche radicale qui dont Biden est la marionnette. Regardez les scènes de manifestation à Portland d'ailleurs dans les suites de contestations des violences policières. Si les démocrates arrivent au pouvoir, ce sera le chaos.
Et Jacques Munier, dans son journal des idées, rappelait que ce couple du Wisconsin qu'on avait vu sur les réseaux sociaux, que Donald Trump avait d'ailleurs retweeté avant, je crois que le tweet ne soit retiré par Twitter.
Va venir à la convention.
Voilà, le couple y est d'ailleurs. On a entendu cette femme qui a donc pointé son arme avec son mari sur des manifestants pacifiques. Bon, ils s'étaient fait un peu abîmer leur portail, ces gens. Mais voilà, Donald Trump les fait venir, c'est quand même un signal fort. Il n'y a pas au moins un débat au sein du Parti républicain sur cette violence latente et cet appel incessant à se rappeler qu'il y a un deuxième amendement aux États-Unis qui permet à tous de se défendre. Les manifestations pacifiques réprimées, on envoie les agents fédéraux dans les villes tenues par les démocrates où on parle de chaos. Il n'y a pas au moins au sein du Parti républicain un débat là-dessus sur il faut calmer le jeu.
Si, sans doute, il y a des voix discordantes au sein du Parti républicain, mais c'est très difficile de les exprimer parce que le risque, c'est que Trump engage un peu
des mesures de rétorsion.
Des mesures de rétorsion, on va dire, rhétoriques sur Twitter, ou mettre face à vous dans les primaires qui ont eu lieu ces derniers mois pour les élections sénatoriales, pour la Chambre des représentants, gouverneurs, etc. Des candidats qui sont beaucoup plus à droite pour les faire battre. Et c'est arrivé en 2018, par exemple, pour les élections de mi-mandat. Donc la peur d'être disqualifié par le président fait que les voix discordantes, elles existent, mais elles ont du mal à s'exprimer. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un culte du chef et de vraiment une glorification de l'action de Trump. C'est une de ses grandes victoires d'avoir fait du Parti républicain le parti de Trump.
Voilà, donc on peut partir éventuellement, mais on ne sait pas par qui on sera remplacé. Et notamment, on voit certains proches de la mouvance conspirationniste QAnon, qui en gros défend l'idée que Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche pour sauver le monde de puissances occultes liées entre autres à des réseaux de pédophilie internationale, etc. On voit des proches de cette mouvance arriver aux affaires, en fait. Et ça, c'est très nouveau.
Oui, c'est une mouvance qui est qualifiée de mouvance terroriste par le FBI depuis 2019. Donc, une mouvance complotiste extrêmement violente sur le ton et dans les intentions politiques aussi, je pense.
Une soixantaine de candidats au Congrès soutiennent cette mouvance aujourd'hui, dont une majorité de républicains, mais pas que. Merci beaucoup Marie-Cécile Nave d'avoir été avec nous. Et puisque vous dirigez à l'IRIS le laboratoire genre et géopolitique, je mentionne votre livre à paraître en octobre, La démocratie féministe, réinventer le pouvoir, aux éditions Kalman-Lévy, avec notamment un chapitre sur l'antiféminisme où l'on retrouve le Parti républicain.
Merci.
Merci à vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture. L'histoire s'écrit tous les jours sur France Culture. Xavier Mauduit.
Ce fut une explosion gigantesque. Une ville, un peuple ont été blessés et même au-delà. Pourquoi une telle émotion? Le cours de l'histoire fait escale dans un port millénaire, Beyrouth au Liban. Combien de fois cette ville a-t-elle été meurtrie pour toujours se relever? De l'antique port phénicien au grand Liban français, de la ville mémoire à la guerre civile, Beyrouth est une ville qui ne cesse de se construire et de se reconstruire.
Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h05 sur France Culture et sur franceculture.fr. Chaque jour sur France Culture à 10h, les chemins de la philosophie par Adèle Vendrette.
Qui a dit que la philosophie n'était pas accessible à tous? Chaque jour, je vous emmène à la découverte d'un philosophe à partir d'un poème, d'un roman ou d'un film, en musique et en chanson, pour voguer en sécurité sur la mer parfois houleuse des discussions philosophiques.
Les chemins de la philosophie, toute cette semaine à 10h et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon.
6h57, c'est votre humeur du jour Guillaume, et ça recommence.
Eh ben, ça dépend des jours, hein. Parfois ça monte, parfois ça descend. Par exemple, avant-hier, c'était très haut, près de 5000. Et le lendemain, soit hier, beaucoup plus bas, un peu moins de 2000. Je parle bien entendu du nombre de nouveaux cas de coronavirus d'après les tests effectués. Chaque jour, ce chiffre est commenté par les uns les autres. Un peu à la manière dont on nous a mille fois expliqué de ne pas le faire lorsque l'on est au régime. Vous savez, hein, il faut pas se peser plusieurs fois par jour pour savoir si ça monte ou si ça descend. Ça monte, ça descend, personne ne sait. français. Si le virus a pris l'ascenseur, mais notre raison, elle, descend l'escalier, elle est un peu précédée par notre morale, il faut le dire, et c'est le retour de l'obsessionnel cantophrène. Vous savez, ce personnage un peu binaire, tapis en chacun de nous, qui pense que la vérité est nécessairement mathématique, que l'on aura épuisé la réalité du réel lorsqu'on l'aura quantifié. Un personnage qui connaît beaucoup plus ses chiffres que ses lettres, il manie tous les chiffres, mais dispose d'une épistémologie rudimentaire qui lui fait croire que la vérité est donc, en dernière instance, une suite de nombres. Et c'est ainsi que l'on agite à longueur de journée le nombre de tests positifs, le taux d'incidence, le R0, ce que vous voudrez, quand on pourrait, par exemple, mesurer la longueur de la file d'attente devant le laboratoire à côté de chez moi, ou bien le nombre de minutes que ma tante a passé aujourd'hui sans croire être atteinte par une forme maligne du coronavirus. L'obsessionnel cantophrène s'occupait jadis du chômage, souvenez-vous. Il commentait la courbe, vous savez qu'il voulait inverser, il est désormais entièrement polarisé sur le nombre de nouveaux cas de coronavirus, il compte les écouvillons, il en tire des vérités générales sur l'univers. Face à cette litanie de chiffres informes, à qui il n'est pas aisé de faire prendre forme, on aimerait s'endormir en laissant l'obsessionnel cantophrène continuer son décompte, dormir du sommeil du juste et se réveiller uniquement lorsqu'il sera arrivé à 65 millions.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et aujourd'hui dans les matins, il va être question d'une autre forme de compte de calcul, les calculs économiques. L'économie suscite évidemment de nombreuses inquiétudes, mais des inquiétudes contrebalancées par le caractère absolument inédit de la période que nous traversons. Certains secteurs vont bien, très bien même, d'autres rencontrent évidemment plus de difficultés. Alors pour y voir un peu plus clair, on va entendre dans les matins deux discours différents. Le premier est celui de l'économiste Éric Heyer et le second est le point de vue du président du groupe de distribution Système Dominique Schelcher. Et puis, on reviendra également dans quelques instants sur l'empoisonnement dont semble avoir été victime Alexandre Navalny, l'opposant à Vladimir Poutine. 7h, très bon réveil à tous sur France Culture.